Chapitre 13e, le brancard de Miroitier. Ce ne fut pas à l'Hôtel-Dieu qu'on ramena Martin Numa. Prosper, Philippe, après avoir fait faire à la voiture, qui appartenait d'ailleurs au service du roi des détectives, de nombreux détours dans le quartier du Luxembourg, par la rue d'Assas, gagnèrent la rue d'Enfer-Rochereau, reprirent le boulevard et sortirent par la porte de Malakoff. Dans le coffre de l'auto, Prosper avait trouvé tout ce qu'il fallait pour un pansement sommaire et immédiat. Martin Numa, le torse maintenant à nu, pensait aussi bien qu'il l'avait été possible dans ces conditions, et le sang arrêté pouvait attendre quelque temps encore un pansement plus sérieux, des soins plus énergiques. Avant de monter rejoindre son camarade Prosper dans la voiture, Philippe avait donné rapidement quelques ordres aux hommes qui les avaient accompagnés dans cette expédition. Aussi, quand la voiture qui emmenait Martin Numa fut sortie des fortifications, elle fut croisée par une automobile spacieuse, très bien aménagée, confortable, au moteur puissant. Cette automobile s'arrêta en apercevant venir en sens contraire la voiture de Prosper, et celle-ci vint se ranger roue à roue le long de l'automobile dont la portière était ouverte. Non sans peine, avec des précautions infinies, Prosper et Philippe parvinrent à sortir le chef, toujours évanoui, de la première voiture, et le glissèrent sur les coussins de l'automobile transformée en lit. Puis, Philippe monta dans cette automobile où se trouvait le médecin Gouget, ami sûr, qui s'était attaché au service du roi des détectives, et l'on partit à toute allure. Prosper, lui, reprit place dans l'autre auto qui le ramena dans Paris. Peu après, il prenait le métro et descendait à la station de Passy. La venue en ce lieu à ce point de cette automobile, dans laquelle se trouvait précisément le docteur Gouget, au moment où l'on en avait besoin, peut paraître au premier abord quelque peu fantastique. Mais rien n'était plus logique que la présence ici de ce véhicule et de ce médecin. Nous savons avec quel soin Martin Numa préparait ses expéditions. Ses lieutenants, élevés à son école, ne lui cédaient en rien sur ce point. Pour la première fois, Martin Numa avait commis, en se rendant seul à la banque de Krapps, une imprudence énorme. Le devoir de Prosper et de Philippe était de la réparer dans la mesure du possible. Pour excuse, bien que pour lui-même cet homme n'admît jamais d'excuse, Martin Numa pouvait dire qu'il comptait sur son déguisement en M. Thomas, et que, tout le monde le croyant mort, disparu pour toujours, on ne pourrait pas deviner, sous les allures de ce bon provincial, le roi des détectives. C'était un tort impardonnable. Il faut toujours se méfier de tous et de tout. Et la grande faute de Martin Numa, c'était en outre de risquer une telle partie en étant encore si faible. Le chef, se dirent Prosper et Philippe, en décidant d'aller au secours de Martin Numa, peut avoir besoin de soins immédiats. Il faut faire venir l'auto et le médecin pour parer à toute éventualité. Et ils préparèrent cette expédition comme eût dû le faire Martin Numa. La grande automobile stationnait donc non loin de la banque pendant que les hommes de Martin Numa pénétraient dans les bureaux. Après la bataille, Philippe n'eut qu'un ordre rapide à donner pour qu'elle vînt, par un détour assez long, rejoindre au point désigné l'auto dans laquelle se trouvait Martin Numa. On le voit, cette rencontre des deux véhicules à cet endroit, cette arrivée providentielle du docteur Gouget, ne tenait pas du prodige, mais était préparée, réglée et attendue. L'homme qui tenait le volant de l'automobile, on s'en doute, appartenait aussi à la brigade de Martin Numa. Il connaissait le service qu'il avait à remplir, les détours qu'il devait faire et comment il était de son devoir de dépister toutes sortes d'espionnages. Il s'en acquitta à merveille et trois quarts d'heure après, Martin Numa était ramené non loin de sa maison de Passy. Mais maintenant, il restait à faire le plus difficile, le plus délicat, le plus important. On devait introduire chez lui, dans son appartement, Martin Numa blessé, sans éveiller l'attention de personne du voisinage. Cela ne semblait pas extrêmement commode. Il est en effet à peu près impossible, à cette heure, en plein jour, de faire pénétrer dans une maison un malade qui, dans ces conditions, ne peut être transporté que sur un brancard, sans éveiller l'attention de tout le quartier, exciter la curiosité de tous les badauds. Cependant, l'automobile s'arrêta au bout d'une rue peu fréquentée, paisible et calme, comme une rue de province. Il s'en trouve encore quelques-unes ainsi dans Passy, qui ont conservé le cachet particulier et charmant du temps où Passy était la campagne des Parisiens. Là, assis sur le trottoir, se tenaient paisiblement deux ouvriers vêtus de longues blouses blanches. À côté d'eux, reposait un long brancard de miroitier qui supportait une glace que recouvrait en partie une grande toile retombant de l'autre côté et formant ainsi une sorte de cabane. Les ouvriers miroitiers étaient là depuis quelques instants quand une automobile entra prudemment dans cette rue. À la vue du véhicule, les deux ouvriers se levèrent. L'automobile, qui avait encore modéré sa marche et allait avec une extrême lenteur, finit par s'arrêter tout près du brancard de miroitier. De l'automobile, Philippe sauta sur le trottoir. « On peut y aller ? » demanda-t-il à l'un des miroitiers. Et celui-ci, qui n'était autre que Prosper, répondit après avoir jeté des deux côtés de la rue et aux croisées un rapide coup d'œil. « Oui, allons-y. » Alors, avec des soins infinis, on aida Martin Numa à quitter l'automobile. Le roi des détectives était, au cours de cette promenade en auto, sous les bons soins du dévoué docteur, revenu à lui. Il fallut toute l'énergie du médecin et de Philippe pour lui faire entendre raison et l'obliger à se laisser emporter. Martin Numa voulait s'en aller à pied. Mais cela devait lui être absolument impossible. Au bout de deux pas, il serait tombé sur le sol. « Et alors ?» déclara le docteur. « Je ne réponds pas de vous. » Le blessé sentit bien que cela lui serait fort difficile d'accomplir cet exploit et qu'il ne pouvait, en dépit de sa volonté, de sa vaillance, être obéi par son corps. Car rien que l'effort que lui demanda sa descente de voiture lui causa une telle douleur que le physique, dominant malgré lui le moral, encore une fois, Martin Numa perdit connaissance. « Cette fois, fit Prosper, ça vaut mieux, on va pouvoir l'emporter malgré lui. » Alors, on le glissa avec mille précautions dans le brancard, qui sous les amas de linge et de papier contenait un matelas incliné et suspendu comme dans tous les brancards de malades. On recouvrit Martin Numa avec ses fouillis, ses linges, et on rabattit sur lui la grande toile qui le cacha absolument, tout en lui laissant la figure à découvert, lui permettant de respirer à l'aise. Prosper se plaça à l'avant, son compagnon à l'arrière, et comme deux bons ouvriers miroitiers, ils se remirent en marche, allant livrer leur glace. Une glace de cette dimension de près de 2 mètres pèse considérablement. À son poids, celui de Martin Numa ajouté, il eût été impossible à Prosper et à son camarade de transporter leur brancard. Ils eussent ployé sous le poids et n'auraient pu s'avancer qu'au prix d'une longue et dure fatigue. Mais il faut dire ici que Prosper ne s'était pas avisé d'essayer cette performance inutile. Le miroir qui se trouvait sur le brancard n'était pas en glace, n'avait pas grand poids. C'était tout bonnement une large plaque de paillon très lisse, très brillante, adaptée à un carton et mise dans un cadre en bois doré. Cela ne pesait guère, et les deux pseudo-ouvriers n'avaient à supporter sur leurs bras et la bricole qui passait sur leurs épaules que le poids de Martin Numa. Mais personne ne pouvait se douter du subterfuge. Les passants, les gens qu'ils rencontraient, gardaient la facilité, à travers les trous de la toile, de voir la simili-glace et même de se mirer dans le paillon qui reflétait leur visage. Ainsi, on arriva devant la maison secrète du roi des détectives. Avec les précautions qu'exige le transport d'une glace de cette dimension, et qui était celle que nécessitait l'état de Martin Numa, on hissa jusque chez lui le blessé. Peu après, on le mettait au lit, et le traitement sérieux et dévoué commençait. « Guérissez-moi vite, mon cher docteur, » avait dit en route Martin Numa, « j'ai besoin d'être bientôt debout. » Martin Numa avait, rue Lepic, non loin de chez moi, un domicile officiel où il recevait sa correspondance et les rares visiteurs que son domestique, véritable Cerbère, au point formidable, n'admettait qu'après leur avoir fait montrer patte blanche auprès de son maître. Nous connaissons aussi l'appartement de la rue des Prouvaires, au-dessus de l'ami Félix. Mais il avait à Passy cet autre domicile. Celui-là n'était connu que de fort peu de personnes, de ses aides, Prosper et Philippe, de moi, du docteur. C'est là qu'il se retirait, pour se reposer parfois, après une affaire fatigante. C'est là qu'il venait élaborer des plans dans le silence. C'est là qu'il avait installé un laboratoire de chimie pour ses recherches et un atelier de photographie. Cet appartement se trouvait dans une maison accommodée autant que possible aux exigences du confort moderne. Il occupait au rez-de-chaussée un appartement composé de quelques pièces. Il communiquait avec un petit jardin, au fond duquel se trouvait un atelier de peintre formant pavillons séparés et admirablement aménagé. Pour arriver à l'atelier, Il fallait passer par le jardin. Le jardin était semé de chausse-trappes invisibles et de pièges cachés où tout imprudent, tout audacieux qui n'en avait pas la clé, devait infailliblement se laisser prendre et expier cruellement son audace. Martin Huma, qui était l'homme prudent par excellence, avait aménagé non seulement ses pièges pour se protéger, se garantir, mais il avait préparé en outre d'autres moyens de défense absolument admirables et de la plus grande originalité. Il pouvait sortir de chez lui par divers couloirs, partant tous de son atelier et donnant dans les maisons voisines à des endroits insoupçonnés des locataires. Il pouvait donc se croire ici absolument en sûreté. Martin Huma fut donc, dans le brancard de Miroitier, transporté chez lui et avec des soins infinis mis au lit par ses deux lieutenants. Le docteur Gouget put alors commodément établir le pansement sérieux et définitif que réclamait la blessure. Le coup de poignard était profond, grave. Le docteur Gouget dut élargir la plaie pour la bien nettoyer, l'aseptiser, afin d'éviter toute inflammation dangereuse. Il fallait empêcher toute suppuration pour permettre aux chairs saines et purifiées de se rejoindre, à la cicatrisation de se faire rapidement. Martin Huma ressentit immédiatement le bienfait de ses bons soins. Il revint à lui comme le docteur mettait la dernière épingle du pansement. Dès qu'il ouvrit les yeux, cet homme admirable montra qu'il avait reconquis tous ses esprits, qu'il se trouvait en son état habituel de vive intelligence. Il approuva ses lieutenants de l'avoir conduit ici et remercia le dévoué docteur Gouget de ses soins affectueux qui devaient le mettre bientôt sur ses pattes. « J'en ai assez d'être au lit. J'ai déjà été tué deux fois. J'étais un double mort. Ça pouvait passer. Mais un triple mort, non ! C'est de l'exagération !» Et se tournant vers moi, il s'écria joyeusement « Eh bien, mon cher Courville, voilà, je crois, un beau reportage. Vous devez être content. Vous allez nous faire un papier sensationnel. » Il riait en nous serrant les mains. Mais tout à coup, il cessa de rire, de parler. Sa figure devint pâle, très pâle. Ses bras se tendirent, ses doigts raidirent, s'écartèrent. Il nous repoussa, fit quelques soubresauts d'atroces douleurs, son corps se raidit et s'immobilisa. Et Martin Huma retomba sur son oreiller, les yeux tout grands ouverts, horriblement fixes. Nous étions tous angoissés, affolés. « Mort, il est mort !» Ce fut notre pensée. Le docteur Gouget avait suivi avec une extrême attention cette rapide et dramatique manifestation de souffrance. Il se pencha sur Martin Huma, regarda ses yeux fixes, dilatés, toucha ses doigts raidis, écouta si le cœur battait dans la poitrine. Puis, se tournant vers nous, il prononça ces paroles effroyables. « Accès de tétanos. Le poignard était empoisonné avec le terrible curare qui ne pardonne pas. » Ainsi s'achève Le double mort, tome 2 de Martin Huma, roi des détectives, par Léon Sazy.